Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Yves Levin. Bonjour.
Bonjour.
Yves Levin, vous êtes ici pour nous parler d'une conférence que vous allez prochainement donner, jeudi 2 février, au Palais Social Place de l'Évêché, ça sera dans la salle communautaire, j'imagine.
Oui.
Et le thème est les maisons fortes du Diwa. Donc c'est un peu un constat de ce que vous avez pu rencontrer,
donc,
découvrir sur le Diwa.
Pour résumer un petit peu, depuis 20 ans, je suis délégué de la Société de sauvegarde des monuments anciens de la Drôme. Et à ce titre-là, donc, je participe à des restaurations de bâtiments. Nombreux bâtiments dans tout le département, et en particulier dans le Diwa. Et au cours de mes visites, donc, j'ai pu remarquer des bâtisses, qu'on appelle des châteaux parfois, mais à tort, qui sont en fait des maisons fortes. Donc ça m'a donné l'idée de faire un peu l'inventaire de ces bâtisses et d'en écrire un peu l'histoire.
Avant d'aller aux profondeurs sur ce thème, on peut vous rappeler aussi, donc, vous êtes arrivé dans le Diwa en 1976. Vous avez été enseignant aussi. Dans quel domaine ?
Oh, j'étais directeur d'école, simplement, dans le pays de Montbéliard, exactement.
Et puis, en l'an 2000, vous êtes retraité, ce qui vous a permis d'avoir plus de temps, d'ailleurs,
exactement,
pour vous engager. Alors, vous avez beaucoup de portes sur le Diwa. Hein. Vous avez, entre autres, été de la Société de sauvegarde des monuments anciens de la Drôme.
C'est ça.
Aussi, vous avez ainsi participé à la restauration du salon chinois, la statue de Claire de Die. Alors, Claire de Die, qu'est-ce que c'est ?
C'est la statue qui se trouve au-dessus, à la place de l'Évêché, là, à gauche de la place de l'Évêché.
Qu'on appelle Béatrice
c'est
de Die.
Voilà, c'est la poétesse de Die, donc, qui a été restaurée parce qu'elle avait été taguée.
Je me souviens, il y a 3-4 ans.
Donc, on a participé à ça, mais bon... J'ai d'autres chantiers à Valcroissant, donc à Sainte-Croix également.
Les moulins de l'Aube, ça
voilà,
c'était...
Voilà, en soutien le moulin de l'Aube.
Et puis
l'orgue... Et dernièrement, le château de Salières aussi. Voilà.
Et l'orgue de la cathédrale qui...
Et les orgues, c'est en cours, oui, bien sûr.
C'est en instance de départ, ouais. Hein, toujours. Et puis l'ancien monastère, vous avez aussi travaillé sur...
Plusieurs fois, et puis à l'église-temple, là, sur Sainte-Croix, on est pas mal intervenu, oui.
Et puis, les fresques de Châtillon, alors ça, il y a des fresques à Châtillon.
Des fresques un peu cachées, mais qui sont très intéressantes, qui ont été restaurées.
Qui représentent quelles scènes ?
C'est surtout des hôtels particuliers avec d'origine un peu italienne, hein, avec des fresques qui retracent un peu le Venise ancien, un peu, voilà.
Et puis, il y a certes cimetières familiaux. J'imagine que vous travaillez aussi avec l'association des cimetières de la Drôme.
C'est toujours dans le même domaine, mais bon, au niveau des cimetières, c'est un peu Diwa, puisqu'on a lancé l'association que dirige maintenant M. Rouchouz, hein, donc qui a le vent en poupe. Et puis, on suit ça de loin, toujours en les soutenant largement.
Et également, vous organisez des visites dans les villages.
Au niveau visite, non, pas trop. Hein, au fond,
moins, peut-être.
Non, on est surtout en visite sur les chantiers. C'est-à-dire, quand il y a une restauration en route, on est là pour accompagner, demander des subventions, aider à ce que ça aille jusqu'au bout. Quoi.
Vous êtes aussi membre de plusieurs structures, hein, en tant que trésorier ou président ou vice-président. On ne va pas refaire toute la liste.
Non, c'est pas la peine.
Et puis donc, pour cette conférence sur les maisons fortes, en premier lieu, qu'est-ce qu'on peut définir par maison forte ?
Alors, la maison forte, c'est un bâtiment qui est... disons, avec des murs épais, Hein, c'est une ferme un peu fortifiée, avec parfois souvent des tours. Et donc, mais ce n'est pas un château. Hein, c'est plutôt une. Ça se rapprocherait un petit peu du manoir, si vous voulez. Les définitions sont un petit peu floues à ce niveau-là. Et donc, la maison forte, elle servait souvent à des fermiers qui dépendaient des seigneurs du coin. Mais, surprise, en creusant un peu dans l'histoire, on s'aperçoit que les seigneurs du coin, quand les châteaux avaient des ennuis, et on remarquera d'ailleurs qu'en ce moment, les vrais châteaux sont pratiquement tous en ruine dans le Diois. Par contre, les maisons fortes, elles, sont toujours occupées. Et donc, on s'est aperçu que parfois, les seigneurs se récupéraient dans les maisons fortes, à côté des châteaux. Hein, par exemple, à Glandage, la maison du Colombier, qui était un restaurant jusqu'à dernièrement. Donc, on suppose qu'il y a un souterrain entre le vieux château en ruine et cette maison forte où les seigneurs s'étaient récupérés donc, au moment des guerres de religion, enfin, etc. Je ne vais pas raconter toute l'histoire.
Hein. Ces maisons fortes, la plupart proviennent de quelle époque? De médiéval?
Entre 13e et 16e, c'est terminé au 16e siècle. Hein.
Pas loin. Beaucoup demeurent toujours.
Elles sont toutes occupées. Hein. Toutes celles que j'ai répertoriées sont occupées par une nouvelle vie. Donc c'était intéressant de faire le parallèle entre l'histoire de ces maisons et la vie actuelle. Elles ont des activités qui sont complètement différentes, évidemment, de ce qui se passait avant.
Vous avez pu définir, d'ailleurs, la conception de ces maisons fortes à l'époque. Quelle fonction avait-elle précisément? On parle de tours. Est-ce que c'était aussi peut-être pour stocker ou un silo, en quelque sorte?
Souvent, les tours, sur les deux tours ou trois tours, il y a souvent un pigeonnier, déjà. Hein. Donc, à Glandage, par exemple, ça s'appelle le Colombier, en fait. Donc, ça veut tout dire. Et souvent, dans ces maisons fortes, il y avait au moins un pigeonnier. Et puis, les autres tours, donc, il y a une autre tour à Vaugelas. Voilà, Vaugelas, près de Valdrome, où il y a une magnifique maison forte aussi, qui a servi de gîte à Lamartine. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est toute une histoire.
Vous vous étendrez peut-être lors de cette conférence sur ces anecdotes historiques.
Ça en fait partie, oui. Parce que derrière chacun de ces grands murs, il y a des gens, il y a des personnes qui racontent et puis on apprend des choses qui sont très intéressantes. Donc ça fait partie un peu du charme de ces maisons que j'ai trouvées. Donc j'ai envie de le partager avec les Diois surtout. Voilà.
Et aussi, qu'est-ce qui vous a attiré justement sur ce sujet de ces vieilles bâtisses, un amour pour les constructions, la pierre?
Souvent, la tristesse de voir des bâtiments en ruine, enfin, soit parfois un peu abandonnés. Hein. Ce n'est pas le cas des maisons fortes, hein. Elles sont toutes occupées là, non. C'est le cas des monuments qu'on a restaurés. Donc il y en a qui ont une grande histoire, comme Valcroissant par exemple, c'est jamais fini, mais c'est tellement intéressant de les soutenir et un grand courage de la part des occupants. Et donc c'est au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour que ces maisons, enfin ces différents lieux anciens, aient donc un pignon sur rue, puissent être visités, etc. Le Moulin de l'Eau par exemple, c'est magnifique. Ça avait été abandonné pratiquement, et là il y a un jeune couple qui se démène pour que tout remarche. Donc c'est formidable.
Qui a remis en état aussi la roue.
La roue va être inaugurée sans doute au printemps là, oui.
Et à quel moment vous intervenez? Qu'est-ce que vous amenez aussi dans...
Souvent c'est au départ.
Dans les conseils.
Souvent c'est au départ parce que faut donner souvent un coup de pouce. Des couples, des jeunes qui ont envie de s'y mettre, mais ils hésitent, évidemment, par rapport au travail ou aux moyens financiers. Donc, notre rôle à nous, c'est de les accompagner au départ et de les encourager. Quand je suis arrivé, par exemple, à Sainte-Croix, c'était complètement, pratiquement abandonné. Et il y a deux jeunes qui voulaient tout reprendre. Et je leur ai dit, allez, il faut y aller, on vous soutient. On a donné un peu d'argent parce qu'on ne donne pas beaucoup. Mais ça a suffi à booster. Et puis maintenant, c'est une véritable réussite, hein, Sainte-Croix, hein, c'est sûr.
Votre rapport, vous dites soutenir, donc avec par exemple un soutien financier, mais aussi est-ce que vous apportez vos connaissances, vos conseils? Est-ce qu'il y a aussi autour de vous des personnes qui sont qualifiées dans tout ce qui est aspect architectural, construction de certaines époques?
Ben dans l'équipe de la sauvegarde, il y a des anciens architectes du patrimoine. Donc quand on fait une première visite, enfin moi souvent je la fais seul, et après, j'appelle, suivant les problèmes qui se posent, j'appelle des gens de notre équipe pour venir à une deuxième visite, évaluer un petit peu ce qu'il y a à faire, etc. Et c'est souvent des anciens architectes du patrimoine donc qui s'y connaissent largement. Et puis petit à petit, on apprend aussi par expérience ce qu'il faut faire, quoi. Voilà.
Vous parliez de châteaux en ruine aujourd'hui, la plupart le sont dans le Diois. D'ailleurs, combien y en existe-t-il ?
Ça, c'est, enfin, dans le Diois même, bon, ça, on peut compter jusqu'à 10, je pense, enfin même un peu plus. Hein. J'ai jamais compté parce que bon, ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop parce que il y a une véritable histoire derrière et bon, ça a déjà été fait bon, par M. Dezay, M. Planchon, etc. Ils ont fait des beaux travaux là-dessus. Il y a aussi des films qui ont été réalisés par M. Mourican qui sont magnifiques. Donc, je prends des choses souvent, moi, enfin, dans mes conférences surtout, qui ne sont pas connues. Hein. La dernière, il y a un an, j'ai fait une conférence sur les curiosités du Diois. C'est tous des petits trucs que j'avais remarqués comme ça en me promenant et qui étaient assez sympas à moi à partager, quoi.
Vous pouvez nous citer un exemple de ces curiosités
à dire? Par exemple, la grotte aux chauves-souris, là, du côté de Rouge-Fourchat, il y a des choses comme ça, des anciennes mines, l'ancienne mine de Minglon, on n'en parle pas beaucoup. Il y a un tas de petites choses comme ça qui étaient intéressantes. J'ai parlé de Clairette de Die aussi, de la poétesse de Die, entre autres. Tous ces petits détails intéressants du patrimoine qui ne sont pas trop connus et puis qui intéressent beaucoup les jeunes, les Diois, quoi. Voilà.
D'ailleurs, tout au long de l'année, vous exercez une activité au sein d'une association qui permet justement ces échanges avec ces jeunes, comme vous dites, ou des gens qui habitent ces bâtisses.
On suit les affaires au fur et à mesure. Hein. Il y a toujours des problèmes qui se posent, des dossiers à déposer. Voilà. Donc, on est toujours à l'écoute. Et je vais souvent sur le terrain ou au téléphone, évidemment, ou sur Internet pour les accompagner toujours et les soutenir. Alors on organise des cagnottes ou quand il y a un besoin financier. Enfin, on fait un tas de choses comme ça pour que les gens ne se sentent pas seuls, surtout.
Je reviens un peu sur ces châteaux. Vous en citez globalement une dizaine. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous intéresse, sur lequel vous travaillez beaucoup?
Ben, je travaille pas pour l'instant, je ne travaille pas trop sur les châteaux. Hein, parce non. Qu'une ruine, c'est quand même difficile à restaurer, de toute façon.
Mais le fait de regretter, est-ce que vous n'essayez pas justement de lancer?
On a parfois des échecs. Si je prends l'exemple de Montmort, par exemple, Montmort en Diois, où on était parti sur la restauration du vieux village qui est sur la route du col de Royer, là. Ce vieux village, il avait une chapelle qu'on a voulu restaurer d'une manière originale pour changer un peu les normes. Mais bon, on s'est arrêté à la première phase parce que la municipalité a changé et donc n'a pas donné suite. C'est dommage parce que ce projet était innové en sorte puisqu'on faisait une cage de verre sur la ruine de l'église Saint-André. Et c'était magnifique, donc voilà. Mais bon, ça s'est arrêté, la cage de verre n'est pas là pour l'instant. C'est en panne. Et bon, ça fait partie des échecs qu'on peut avoir, hein, parce qu'on est en liaison toujours avec les élus, évidemment. Et si les élus changent, il y a des élus qui ont la volonté de restaurer, d'autres un peu moins. Pour eux, ce n'est pas une priorité, donc nous on respecte hein, les choix. Donc, nous, on est simplement là si il y a une volonté de restaurer pour accompagner, c'est tout.
Et puis, pour les maisons fortes qui sont habitées hein, en majorité, vous avez ce contact avec ces habitants.
C'est plutôt pour mon plaisir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de restauration autrement de ces maisons fortes. C'est simplement par curiosité et le fait de les répertorier déjà. Et de les, par plaisir, de faire leur histoire, d'évoquer leur histoire et surtout le projet actuel. Mais dans le projet actuel, bon, pour l'instant, c'est des gîtes, c'est des gens qui habitent pour une ferme, etc. Si je prends la Chamarche, par exemple, qui a un lourd passé, le château de Chamarche, qu'on appelle château, mais c'est une ferme pour l'instant. Et le château de Chamarche qui a un lourd passé, pour l'instant, il a un grand projet avec la Carline. Pour du maraîchage. Donc tout ça, c'est intéressant à évoquer, que les gens soient au courant. Voilà.
Vos connaissances, vous les partagez également sur des périodiques, par exemple, des magazines.
La Société de sauvegarde a deux journaux par an, enfin deux magazines, où les restaurations sont évoquées, il y a des articles des associations. Parce que chaque restauration exige une association. On ne peut pas faire une restauration sans association. Donc, le premier travail qu'on impose, en fait, c'est de créer une association pour la restauration du temple, la restauration de l'église, etc. Même quitte à la dissoudre une fois que c'est terminé. Mais enfin, on ne peut pas faire sans une association. Donc, les associations s'expriment dans notre journal tant que le... Donc ils suivent leur chemin et puis bon après ils peuvent rester donc et faire des articles pour les animations parce que une des conditions qu'on donne aussi de ces restaurations c'est que ensuite le site vive. Si on restaure pour que le site reste mort, ça sert pas à grand chose. Donc chaque fois on insiste pour qu'il y ait des animations, des expositions, des concerts, etc. Que le lieu une fois restaurés, servent au public. Voilà.
Vous parliez de ces maisons fortes. Je ne sais pas si vous avez précisé pourquoi, justement, étaient-elles aussi avec des murs aussi épais. Est-ce que c'était des demeures de défense aussi pour l'époque?
Ben, il y avait une volonté de pas vraiment de défense, parce qu'ils n'étaient pas armés, mais de se protéger de l'extérieur. C'était l'esprit du Moyen-Âge, hein, de toute façon. Donc, partout, il y avait une volonté des grands murs, des portails, qui voulaient dire, bon, ici, c'est chez nous. Vous n'avez pas y pénétrer, c'est tout.
Et est-ce que vous vous êtes basé aussi sur des textes? Est-ce qu'il existe des textes qui relatent chroniques sur le Diois?
Il y a des archives, oui, que j'ai retrouvées, oui, qui sont parfois intéressantes. Par exemple, à Chamarge, il y a eu un carnaval dans les années 1700 où une comtesse a attaqué le château, mais pour la frime, hein, c'était un jeu. Et tout est relaté dans un ancien journal qui paraissait à ce moment-là, oui. Voilà. Par exemple.
Je voulais savoir, par rapport aussi à votre engagement sur les sentiers des Huguenots, hein, vous êtes membre de cette...
J'ai participé à la création du sentier des Huguenots, oui, puisque ça a démarré à Die, en fait.
Et puis, vous êtes aussi membre de la paroisse réformée de Die.
Oui.
Pendant 6 ans, vous l'avez été. Oui. Cet engagement envers la chrétienté, pour vous, c'est aussi le fil de ce que vous percevez dans l'architecture locale aussi. Est-ce que vous y mettez des liens?
C'est vrai que, pour tout vous dire, ça a augmenté le patrimoine protestant, puisque j'ai été un peu engagé dans la restauration du temple de Poney qui était en ruine, alors que j'étais président de la paroisse. Donc... J'ai suivi cette affaire en tant que président. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai été entraîné dans la société de sauvegarde des bâtiments anciens. Et j'ai été même vice-président. Et donc là, maintenant, je suis délégué encore du Diois, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, en fait.
Je reviens sur ce jeudi 2 février à 15h, ça sera en après-midi. Donc, cette conférence sur les maisons fortes du Diois, vous mettrez le point sur quel sujet, sur quels aspects?
Ben, chaque maison a sa particularité. Donc, les sujets sont différents. Donc voilà, c'est pas, il y a vraiment le fil conducteur, ce sont ces maisons évidemment, mais parfois il y a une constance qui n'est pas la même partout. Donc parfois il y a des histoires protestantes d'ailleurs, oui, il y a des maisons où c'est évident, mais d'autres c'est autre chose. Donc voilà, c'est un peu chaque maison a un peu sa particularité.
Montbéliard, dont vous êtes natif, pour vous, c'est aussi d'autres aspects. Vous vous êtes intéressé aussi à ces demeures de ce genre, ou est-ce qu'elles existent d'ailleurs?
Oui, ben il y a un patrimoine complètement différent là-bas. Hein. C'est le patrimoine franc-comtois, donc le château de Montbéliard en particulier. Mais donc c'était un comté allemand à l'origine. Donc il y a tout un patrimoine où je m'étais intéressé avec mes élèves surtout. Hein, donc c'est vrai que là, c'est un peu un fil conducteur pour moi. Donc, c'est pas très nouveau que je m'intéresse aux vieilles pierres, en fait.
Et puis, vous avez aussi, en tant qu'enseignant, vous avez aussi organisé des échanges internationaux scolaires avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie. Aussi des engagements associatifs comme la CIMAP et le foyer d'accueil de migrants. Et à l'heure actuelle, vous êtes aussi...
Je fais partie du RADAR, oui.
Voilà, c'est
mais
ça.
Pas en tant qu'actif. Hein. Je suis soutien un peu financièrement et puis je les soutiens beaucoup.
Il y a en quelque sorte un fil conducteur dans tous ces aspects que vous proposez. C'est l'aspect religieux, entre autres, mais aussi la part des personnes qui viennent d'ailleurs ou qui se posent aussi.
Le fil conducteur, c'est l'humanité. Hein. C'est l'humanité, la chaîne de solidarité avec toutes les nations et puis... Ils ont une lutte contre le nationalisme, etc. Donc, je fais partie également. J'ai été responsable de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui a un groupe sur 10, qui est un peu en sommeil pour l'instant, mais j'espère un jour se réveillera un peu, qui correspond un peu à Amnesty, si vous voulez, hein, comme esprit. Donc, là aussi, ça fait partie de mes vue humanitaire pour tout le monde. Hein. C'est un peu mon fil conducteur, en fait. Même dans les maisons fortes, on retrouve des actions qui ont été faites dans ce but-là aussi. Hein. Par exemple, au château de Perdillé, c'était un centre d'accueil de réfugiés qui est un peu oublié maintenant, mais donc qui a travaillé aussi avec la CIMAD et qui a organisé tout un accueil de réfugiés juste après la guerre, mais qui était formidable comme accueil.
Mis à part le bâtiment de ces maisons fortes, et vous parlez d'humanité, est-ce qu'elles ont laissé aussi des traces? Est-ce qu'on peut y voir des inscriptions, des choses anciennes laissées par les gens qui sont passés dans ce lieu?
Ben pas trop, parce que c'est les souvenirs. Par exemple, pour Chamarge, on a une ancienne dame qui n'est plus de ce monde, je crois maintenant, qui était à l'EHPAD de Die, qui a retracé tous ses souvenirs sur Chamarge, Madame Breton, et qui était donc habitante du lieu, et qui a raconté tout ce qui se passait donc dans le petit journal de l'EHPAD, c'est pas comment ça s'appelle, de l'Apache. Qui a retracé des souvenirs des anciens, et elle a mis au moins 5-6 pages là-dessus, sur sa marge, tous ces souvenirs d'occupation de la maison, qui sont très précieux.
C'est un aspect aussi de votre travail, d'aller à la recherche d'écrits, de textes.
Oui, je suis toujours en recherche.
Et comment vous procédez? Vous allez au musée ou dans des archives?
Il y a beaucoup d'Internet, hein, parce que les archives sont numérisées, donc on a obligé... Enfin, avant, il fallait se déplacer, maintenant, c'est plus facile. Et puis donc, moi, j'aime bien rencontrer les gens. Quand je peux... Enfin, sur le Diwa, c'est pas trop compliqué. J'aime bien voir les gens sur place et discuter avec eux. On apprend toujours des choses et ils sont toujours contents de raconter des petits souvenirs qui font le charme de mes conférences éventuellement.
Vous établissez en quelque sorte un catalogue de ce que vous découvrez, de ce qui existe sur ce domaine?
Bah, il y a un an, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les communes du Diou à la loupe. Je ne sais pas si vous savez, c'est encore en vente à Mosaïque, mais bientôt épuisé. Donc, où je raconte tous les villages de la Drôme avec leur un peu leurs particularités. Donc, voilà, c'est un beau catalogue.
Cette conférence sera suivie d'un échange avec l'auditoire, j'imagine.
Toujours, oui, toujours. On discute avec les gens et ils ont souvent des questions qui les ont titillées un petit peu en écoutant.
Par rapport à cette conférence, comment se déroule-t-elle ?
Eh ben, en général, toutes mes interventions se passent avec des images projetées que je commente. C'est-à-dire que c'est un montage qui défile au fur et à mesure de mes commentaires. Donc, c'est uniquement visuel, puisque y a pas de... Enfin, si, j'ai un texte prêt pour chaque image, mais enfin, donc... Les gens écoutent, et puis, donc, chaque fois, une image à regarder.
Voilà. Vous êtes vous-même photographe dans ce domaine ?
Je prends des photos, oui. Ben, quand on fait les chantiers, de toute façon, la première chose que je fais, c'est des photos. Donc j'ai pas mal d'archives, donc surtout les monuments, enfin surtout les endroits du Diwa, là, j'en manque pas. Hein. Donc voilà, on commence par les photos et puis après, bon, peut-être sur Internet, vous avez un site qui s'appelle Mémoire de la Drôme, qui a une grande réserve d'anciennes photos qui sont intéressantes aussi. Donc je puise parfois dedans, voilà, parce qu'on peut pas évidemment se projeter 30 ans en arrière pour faire une photo. Hein. Il vaut mieux avoir celle qui existait.
Vous et l'association Diwaz des Amis des Arts et du Musée, vous en faites partie également ?
J'en fais partie, oui.
Et pour les prochains événements, d'ailleurs, ces conférences sont régulières.
J'en suis à ma troisième. La première, c'était sur les protestants, enfin l'exil des protestants, qui est un sujet très Diwaz. Et puis là, la deuxième, c'était les curiosités du Diwa. Donc, c'était plus des choses, un tas de sujets, mais pas très protestants. Et puis là, celui-là, bon, les maisons fortes, il y a quelques petits clins d'œil protestants sur Perdillé, ou même pas Chamarge, donc Perdillé, par exemple. Mais autrement, c'est tout. Hein.
Et donc, vous avez certainement une page Internet des Amis des Arts et du Musée qui annonce aussi la programmation à venir.
Oui, ça existe. Oui.
Donc, on peut inviter les auditeurs...
Et surtout une page Facebook, je crois.
Facebook.
Je donne rendez-vous au Palais Social à 15h jeudi prochain, voilà, pour modestement proposer mes maisons fortes.
Yves Levin, je vous remercie d'être passé sur Air Diwa pour annoncer votre conférence sur les maisons fortes du Diwa et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.